C'est écrit pour nous, une émission présentée par le pasteur Elios Michel.
Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Merci à chacune et chacun de vous pour votre soutien fidèle sans lequel nos émissions ne pourraient perdurer. Merci pour vos dons. Merci pour vos prières. Merci également d'avoir fait connaître le site web de FM Évangile 66 à vos proches et à vos amis. Ainsi, maintenant, on nous écoute dans le monde entier. Et à l'onglet messages, nous mettons à disposition des textes de prédication et leur écoute en replay. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de nous téléphoner pour nous encourager ou nous interroger, montrant ainsi leur intérêt pour l'Évangile. De ce nombre, citons Jérôme de Néphiac ou Céline de Saint-Félieu, et bien d'autres encore de l'Hexagone ou de l'étranger. Ce jour, nous parlerons d'occultisme, de ses faits et aussi de ses méfaits. Et nous allons en parler à la lumière de la parole de Dieu, avec cette lampe, cet éclairage parfait. Nous pouvons connaître quelles puissances surnaturelles sont derrière ce qui est occulte, c'est-à-dire caché. L'occultisme, sous ses diverses formes, attire et séduit un grand nombre de personnes, hélas, non pour leur épanouissement, mais bien pour un asservissement, comme en ont témoigné nombreuses de ses victimes. Le psaume 19 et au verset 8 déclare ceci. « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. » Nous avons là une double affirmation. D'abord, la loi de l'Éternel est parfaite, avec sa conséquence. Elle donne du réconfort. Puis, le témoignage de l'Éternel est vrai, avec comme conséquence, il rend sage celui qui manque d'expérience. Il y a bien des années de cela, un homme m'a demandé de passer chez lui pour un entretien. À l'adresse indiquée, une plaque. Alain, astrologie, cartomancie. Dès le début de notre conversation, il m'a posé cette question. « Que pensez-vous de mon activité ?» Pour toute réponse, je lui ai lu ceci. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 13. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. » À la lumière de ce texte, je lui ai dit qu'il était sur une mauvaise voie. Sa réponse m'a surpris. « Je le savais, dit-il, mais je voulais vous l'entendre dire et de me conter comment il en était arrivé à cette activité, puis comment il était obligé de dormir la lumière allumée, tant les angoisses qui l'étreignaient étaient fortes. Le jour même, il a mis un terme à son activité et le Seigneur l'a délivré de toute angoisse et a pourvu rapidement à un emploi de technico-commercial qui l'a mis à l'aise sur le plan financier. Le prophète Ésaïe a dénoncé la vacuité du recours à l'astrologie. je lis. Ésaïe chapitre 47, versets 13 à 15, Bible français courant. Tu t'épuises à consulter les astrologues. Eh bien, qu'ils se présentent et qu'ils viennent te sauver, ces astrologues qui observent les astres, annonçant tous les mois ce qui doit arriver. Ils auront le sort de la paille. Le feu les consumera. Ils n'échapperont pas aux flammes. Et ce ne sera pas un petit feu de braise où l'on peut cuire son pain, ni un simple foyer d'où l'on vient se chauffer. Tel sera le sort de tes sorciers que tu prenais tant de peine à consulter depuis ta jeunesse. Ils partiront à l'aventure, chacun de son côté. Aucun ne pourra te sauver. Les sorciers, selon le terme employé dans la version en français courant, ou devins, selon d'autres versions, voire simplement l'expression, je cite, « ceux qui ». Ces gens-là connaissent des fins tragiques et il y a beaucoup de dégâts collatéraux. C'est pourquoi la parole de Dieu nous met en garde. Hélas, nombreux sont ceux qui, par ignorance, par curiosité ou par forfanterie, sont pris dans les filets de l'occultisme. Mais, à l'attention de celles et ceux qui veulent être au clair, voici un petit coup de projecteur sur les diverses facettes de l'occultisme. La divination est l'une des voies de l'occultisme, que ce soit par l'astrologie ou la cartomancie, voire par la chiromancie, qui se base sur l'interprétation des lignes de la main, l'homme cherche à connaître les choses cachées du passé, du présent ou du futur le concernant. Et parfois, l'expression directe de l'esprit de Python ajoute à la confusion. Je lis Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Notons bien ceci. Aucun signe particulier ne permettait d'identifier Paul et ses compagnons. Cette déclaration de la femme est bien surnaturelle et ne peut provenir d'une quelconque intuition. C'est le fait de l'esprit mauvais qui l'habite. Et l'exactitude de ses propos n'a aucune origine divine, comme souvent on le prétend. L'apôtre a montré dans cette situation qu'il se dissociait de cette femme, soulignant par cela qu'il n'y a rien de commun entre la lumière de l'Évangile et les divinations de l'occultisme. Une autre précision à l'attention de certains spécialistes de l'exorcisme qui se donnent un service de dépistage et vont à la chasse aux démons. Paul, pas plus que Jésus, n'est un chasseur de démons à la manière des chasseurs de primes qui, dans le Far West, poursuivaient les bandits dont la tête était mise à prix sur affichette avec la mention « wanted », c'est-à-dire « recherché ». Paul, comme Jésus, chassait les démons quand il croisait sa route, et cela afin de délivrer des individus captifs et asservis. La magie est une autre voie de l'occultisme. Elle cherche à modifier le cours des événements afin de favoriser la réussite en affaires, en amour, et etc. Le magicien a recours à des amulettes, à des talismans, à des formules incantatoires, qu'il appelle d'ailleurs des prières. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, il est fait mention d'un magicien nommé Simon. Il suscitait étonnement et admiration chez ses concitoyens. Et l'on disait de lui, « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Simon est entouré de possédés, de paralytiques et de boiteux. Et tout change quand l'évangéliste Philippe vient dans la ville prêcher le Christ. La population tout entière est très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entend et voit les miracles qu'il accomplit. En effet, des esprits mauvais sortent de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux sont également guéris. Ainsi, la joie est grande dans cette ville. La supériorité de la puissance qui opère est évidente, avec les bons fruits qui l'accompagnent. Même évidence qu'en Égypte, avec les magiciens face à Moïse. Voir Exode chapitre 7 et 8, jusqu'au verset 14 où il est écrit ceci. Les magiciens essayèrent d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Alors les magiciens dirent au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu ». Nous poursuivrons notre méditation après la page musicale. Avant de poursuivre notre coup de projecteur sur les diverses facettes de l'occultisme, je voudrais rassurer les croyants en rappelant que la puissance de Dieu est plus grande que celle du diable, notre ennemi. Bien-aimés, vous qui êtes enfants de Dieu, vous n'avez pas à craindre l'ennemi de nos âmes. Jésus a dit « Personne ne vous arrachera de ma main, personne sauf vous-même ». Cette liberté de vous retirer de sa main vous est laissée par le Seigneur. Je redis, cette liberté de vous retirer de sa main vous est laissée par le Seigneur. Ces choses ont été abordées en détail dans une précédente émission. Le texte et le replay en sont disponibles sur le site FM Évangile 66, rubrique émission, auteur Elios Mikel. Jeudi à 10h, titre « Délivrance, liberté, responsabilité ». Poursuivons notre tour d'horizon des facettes de l'occultisme. L'envoûtement est une facette de la magie visant à dominer quelqu'un, à anéantir sa volonté, en un mot, à lui nuire. Celui qui appartient au Christ n'a rien à craindre. Balaak, le Moabite, avait fait chercher à prix d'argent le devin Balaam pour maudire Israël. Épisode rapporté dans le livre des Nombres, chapitres 22 à 24. Mais Balaam ne peut pas maudire, et il dira à Balaak ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Livre des Nombres, chapitre 23, verset 23. Oui, face entre guillemets, aux jeteurs de maléfices, nous restons sereins, car je cite, 1 Épître de Jean, chapitre 4, verset 4, l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. Voilà pour le danger venant de manifestations surnaturelles. Autre précision indispensable, le vocable magie est aussi utilisé en relation avec ce qui vient de la nature humaine. Et là, rien de surnaturel. Je cite Galates, chapitre 5, verset 19. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Encore une précision pour ne pas sombrer dans le ridicule dans lequel ont plongé quelques ignorants. Une maman a refusé que son enfant assiste à un spectacle réservé aux petits parce qu'à côté des clowns, le programme annonçait un numéro de magicien. Ce magicien-là était simplement un prestidigitateur, en fait un artiste qui, par sa dextérité manuelle, peut faire apparaître ou disparaître des objets, cartes, dés, foulards, etc. Il leurre nos sens et nous impressionne. En fait, il y a simplement un truc. Rien de surnaturel donc. Aucun danger. Ne jetons pas l'anathème sur ce type de spectacle parce que nous ne savons pas distinguer ce qui vient de l'habileté de l'homme et ce qui a une origine surnaturelle. Parlons maintenant des guérisseurs. En France, ils sont plus nombreux que les médecins et s'appuient sur le magnétisme ou quelques dons particuliers transmis par un ancêtre. Nous sommes sur ce terrain à l'opposé de l'Évangile. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre après la guérison du boiteux de naissance qui mendiait à la porte du temple. Je lis. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi fixez-vous les yeux sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété? Je répète, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme. Et de préciser, je lis au verset 16, c'est par la foi au nom de Jésus qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Pierre le souligne, ni par notre puissance ou notre piété. Quelqu'un dira, je cite, « Le plus important n'est-il pas d'être guéri ? Alors, peu importe l'origine du pouvoir qui est exercé. Et puis, quand la médecine traditionnelle est inefficace et qu'on ne sait plus à quel saint se vouer, bien-aimé, je comprends votre souffrance et je rebondis sur l'expression « on ne sait plus à quel saint se vouer » en ajoutant « il vaut mieux s'adresser tout simplement à Dieu lui-même ». C'est le message encourageant que nous trouvons dans tout l'Évangile. Mais pourquoi une mise en garde contre certaines pratiques? Pour la même raison que dans le cadre de l'idolâtrie. Je cite l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Notons aussi ce que Jésus réplique à ceux qui l'accusent d'agir par la puissance du diable. Je lis Matthieu chapitre 12, versets 22 à 26. On amena alors à Jésus un homme qui était aveugle et muet parce qu'il était possédé d'un esprit mauvais. Jésus guérit cet homme, de sorte qu'il se mit à parler et à voir. La foule était remplie d'étonnement et tous disaient « Serait-il le fils de David ?» Quand les pharisiens les entendirent, ils déclarèrent « Cet homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Béelzébul, leur chef, lui en donne le pouvoir. Si Satan chasse ce qui est à Satan, il est en lutte contre lui-même. Comment donc son royaume pourra-t-il se maintenir ?» la chose est facile à comprendre. Être en communion avec des démons ou, entre guillemets, bénéficier d'un secours, d'une faveur du diable, se fera toujours à notre détriment. C'est pourquoi, dans une logique qui nous échappe, certaines tribus indigènes, en Afrique subsaharienne, offraient des sacrifices aux esprits méchants qu'ils redoutaient. Cela pour que ces esprits ne leur fassent pas de mal. En vérité, la parole de Dieu révèle un danger qui est grand. Parfois, dans un premier temps, l'intervention d'un guérisseur apporte un soulagement. Mais ensuite, le mal empire. Bien-aimé, si vous avez été séduit et entraîné dans ces voies contre lesquelles l'Écriture nous met en garde, je vous dis, aujourd'hui, qu'il y a pour vous une porte de sortie. Peu importe les raisons pour lesquelles vous en êtes arrivé là. Comme Alain, l'astrologue cartomancien, dont j'ai cité le cas en début d'émission, reconnaissez que vous vous êtes fourvoyé et demandez pardon au Seigneur. Ensuite, et immédiatement, coupez tout ce qui peut vous relier à l'occultisme, sous quelque facette que ce soit présenté, qu'il se soit présenté à vous, et laissez-vous réconcilier avec Dieu. Acceptez-le comme votre sauveur et vous deviendrez son enfant. Je rappelle ici la parole du prophète Balaam, citée plus tôt dans ce message, Nombre 23-23. Je lis « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oui, le Seigneur prend soin de ses enfants. » Le psalmiste le souligne en ces termes, je cite. Proverbe chapitre 18, verset 10. « Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Voyons un autre cas. J'ai rencontré, il y a des années de cela, une personne communément appelée coupeur ou passeur de feu. À la lumière de l'Évangile, elle a découvert que ces formules incantatoires étaient à l'opposé de la foi. Elle a accepté Jésus comme son sauveur et nous avons brûlé tous ses livres de magie. Elle a été délivrée de l'angoisse qui l'oppressait. La joie de Dieu a rempli son cœur et toute sa famille s'est tournée vers Dieu. Alléluia ! Nous aborderons le spiritisme, autre facette de l'occultisme, après la page musicale. Thank you. Notre réflexion sur l'occultisme nous amène à mettre maintenant l'accent sur le spiritisme. C'est la croyance à la communication possible avec les morts. Il s'articule autour d'objets animés, tels des tables tournantes ou des médiums qui font office de poste récepteur. On comprend facilement que certains soient séduits par la pensée de garder une communion avec les défunts bien-aimés, sans parler de motifs cupides qui peuvent animer certains autres, car dans telle famille, le grand-père est parti sans dire où il avait caché la cassette contenant les pièces d'or. Alors, quel éclairage nous en donne la parole de Dieu ? Voici ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 6. « Les morts ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive ici-bas. » Bible français courant. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, il est écrit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. » Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Ces choses étant posées, à savoir que les morts sont dans le repos et qu'ils n'interviennent pas dans le monde qui est le nôtre, nous allons analyser le texte relatant la démarche du roi Saül. Il vient consulter une femme qui interroge les morts. Ce récit est rapporté dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 3 à 20. À l'attention de ceux qui prennent des notes, je répète cette référence. 1 Samuel, chapitre 28, versets 3 à 20. Quelle est la situation ? Les Philistins se préparent à l'attaque. À la vue de leur camp, Saül a très peur et se met à trembler comme une feuille. Il interroge l'Éternel, mais n'obtient aucune réponse. Saül est en pleine déchéance. Dans son désarroi, il ordonne à ses officiers ceci : Cherchez-moi une femme capable d'interroger les morts pour que je puisse aller la consulter. Rappelons que Saül avait interdit dans son royaume les pratiques consistant à évoquer et interroger les morts, cela en accord avec le passage de Deutéronome chapitre 18 verset 11, texte qu'il avait dû écrire de sa main en sa qualité de roi. Je le lis pour vous. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge, d'une manière ou d'une autre, les esprits des morts. Déguisé et accompagné de deux hommes, Saül arrive de nuit chez la femme qu'on lui a indiquée et lui dit « Je désire que tu interroges un mort pour moi. Fais apparaître celui que je vais t'indiquer. » Réponse de la femme, inquiète. « Tu sais bien que Saül a éliminé du pays les pratiques consistant à évoquer et interroger les morts. Est-ce que tu cherches à me tendre un piège pour me faire mourir ?» Afin de dissiper les réticences de la femme, Saül lui garantit, serment à la pluie, qu'elle ne court aucun risque. Question : combien d'individus dans leur pays pouvaient lui faire un tel serment ? Réponse : un seul, le roi Saül en personne. Et Saül demande à être mis en contact avec le défunt prophète Samuel. Nous n'avons pas d'indication concernant le support utilisé par la femme pour sa prestation. Était-ce une boule de cristal ? Était-ce un miroir ? En voyant Samuel, selon les dires de la femme, elle déclare à son interlocuteur qu'il est Saül. La séquence continue. Et quand la femme évoque un vieillard enveloppé d'un manteau, Saül comprend qu'il s'agit de Samuel. Saül ne voit rien, mais il est persuadé d'avoir affaire à Samuel. et l'échange qui a lieu anéantit Saül et le plonge dans l'épouvante. Le lendemain, il périt sur le champ de bataille. Et l'Écriture précise, premier livre des Chroniques, chapitre 10, verset 13, « Saül mourut parce qu'il avait été infidèle envers le Seigneur, il avait négligé d'obéir à ses commandements et il avait même évoqué l'esprit de mort. » Question, qui est derrière cette réalité puisque les morts n'ont pas de contact avec les vivants? Réponse, ce sont des esprits de ténèbres, des démons. L'occultisme, sous ses diverses formes, tout comme l'idolâtrie, met les hommes en communion avec les démons. C'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes chers amis, gardez-vous du culte des idoles. Et Paul conclut sa mise en garde par ces mots. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Disons-le à nouveau. Il y a un danger bien réel et très grand. C'est la raison d'être des interdictions et des avertissements donnés par la parole de Dieu. Certes, il y a des charlatans avec des pratiques attrape-nigauds. Cela ne menace que notre portefeuille. Mais d'autres sont réellement manipulés par le diable. Aucune manifestation surnaturelle ne peut procéder de l'esprit de l'homme. Toute manifestation surnaturelle est d'origine divine ou démoniaque. Il est donc primordial d'être bien au clair. Avant de conclure, voici un autre exemple donné par l'Écriture pour souligner, si besoin est encore, que ces choses doivent être prises très au sérieux. Je lis Actes chapitre 19, verset 13 et suivant. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous ordonnons de sortir par le nom de Jésus que Paul prêche. » Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. L'événement a fait grand bruit et a mis en lumière la réalité du monde des ténèbres, car il est écrit, verset 17, « Les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait. Ils furent tous saisis de crainte, et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. » Et en conséquence directe de cela, il est précisé qu'un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie ont apporté leurs livres et les ont brûlés devant tout le monde. La valeur de ces livres était estimée à 50 000 pièces d'argent. Bien-aimés, la voix de l'espoir nous vient de l'Évangile. Jésus apparut pour détruire les œuvres du diable. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Il nous appartient de nous tourner vers Jésus. C'est le choix, la décision qui s'impose si nous cherchons un vrai secours. Bien-aimé, as-tu été entraîné dans une de ces voies évoquées précédemment? Ressens-tu sur ta vie comme une chape de plomb? Jésus veut te mettre à l'aise, te rendre libre. L'Écriture nous rappelle que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Mais il appelle chacun à changer de comportement. Bien-aimé, sur la croix, Jésus est mort pour toi, pour expier tous tes péchés et t'amener à la lumière du salut. Aujourd'hui, donne-lui ton cœur simplement, avec tes mots, parle-lui directement. Bien-aimé, ne remets pas à plus tard cette décision. Tu ne peux plus dire « Je ne sais pas que ces choses sont mauvaises, préjudiciables. » Ta responsabilité est engagée. Oui, ta responsabilité est engagée. Cela est détaillé dans le message intitulé « Délivrance, liberté, responsabilité ». Le texte et le replay en sont disponibles sur le site de FM Évangile 66, rubrique émission, auteur Elios Bickel, jeudi à 10h. À cette même rubrique, le message de ce jour y sera disponible également. En nous quittant, bien-aimés, voici une dernière recommandation. Nourris ton âme par la lecture de la parole de Dieu et fais connaître autour de toi la grâce que le Seigneur t'accorde. Amen.